Je vous souhaite la bienvenue pour cette émission, chers amis auditeurs. Que vous soyez un habitué de notre programme ou que ce soit la première fois que vous nous captez, je prie que vous soyez bénis et encouragés par le partage de la parole de Dieu. J'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur le thème « Confiance malgré la persécution ». Récemment, pendant mon culte personnel, j'ai médité pendant plusieurs jours sur le psaume 3, dont je vais lire un extrait. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Les éditeurs de ma Bible ont donné pour titre à ce psaume « Confiance malgré la persécution », un titre tout à fait approprié. Cette magnifique prière est de la plume de David, à qui nous devons une bonne partie du livre biblique appelé « Psaume ». Bon nombre de lecteurs de la Bible ne prêtent guère attention à ce qu'on appelle « titre » ou « suscription ». Pourtant, ce sont justement ces titres qui nous révèlent parfois dans quelles circonstances les différents psaumes ont été rédigés. Cette information contribue d'une façon non négligeable à une bonne compréhension et à une meilleure appréciation du chant ou de la prière en question. Il en est certainement ainsi de notre psaume 3. Le roi David nous informe que c'était à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, qu'il a rédigé ce psaume. Ce fut donc dans des circonstances bien éprouvantes que cette prière inspirée et bien encourageante a vu le jour. Si nous voulons savoir plus sur les événements exacts qui ont amené David à fuir devant son fils, nous devons impérativement consulter le deuxième livre de Samuel. Là, nous apprenons comment et pourquoi Absalom s'est soulevé contre son propre père et a provoqué un coup d'État avec de graves conséquences. Une révolte est toujours quelque chose de tragique, surtout quand c'est un fils qui s'élève contre son propre père. Or, avant de juger Absalom trop vite et trop sévèrement, nous devons être conscients que David n'était pas sans tort dans cette affaire. Le temps ne me permet pas d'aller dans tous les détails, mais une partie du problème résidait dans le fait que David avait trop d'enfants pour s'en occuper convenablement. Ses nombreux enfants venaient de plusieurs épouses. Nous trouvons une note tragique dans le récit sacré que voici. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il eut naquit encore des fils et des filles. Je suis persuadé que la polygamie de David lui a joué de mauvais tours. Ce grand roi d'Israël avait certainement un penchant pour le sexe faible, ou pour le dire autrement, il avait un faible pour le sexe. Cette faille lui est devenue fatale dans l'affaire Bathsheba, quand il a commis un adultère avec cette femme mariée. Dieu lui a pardonné ce péché quand il a reconnu et confessé, mais à partir de ce moment-là, son autorité royale était minée et son règne n'était plus jamais le même. Que pouvons-nous apprendre de tout cela ? La Bible souligne le fait que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction. La Bible n'est donc pas juste un livre d'histoire. Au contraire, c'est un recueil qui veut nous instruire et nous préparer pour l'éternité. Dieu, par les saintes Écritures, veut nous mettre en garde contre les pièges de l'ennemi et contre les conséquences du péché. La polygamie de David et les nombreux enfants qui sont issus de ces unions me rappellent que dans notre petit pays, bien des hommes se sont rendus coupables du même péché. Quand on ne se contente pas de son épouse, et quand on engendre des enfants à droite et à gauche, il est difficile de s'en occuper convenablement. Ceci aura des répercussions parfois bien graves et à long terme. Il est déplorable quand un enfant n'a pas un vrai père qui lui sert de modèle, qui prend soin de lui et qui lui prodigue toute l'affection dont tout être humain normal a besoin. Monsieur, peut-être vous sentez-vous interpellé par ce que je viens de dire. Il est alors temps de revoir votre copie, comme on dit, et de modifier votre comportement. Le parcours du roi David nous rappelle en même temps que Dieu veut bien pardonner nos péchés quand nous nous en repentons, mais sachant que les conséquences de nos péchés restent. David a dû apprendre cette leçon douloureuse à ses dépens. Quand son fils Absalom a fait assassiner son demi-frère Amnon, parce que celui-ci avait violé Tamar, sa sœur, le roi David, dont l'autorité avait été minée par ses propres dérives, n'a pas su bien gérer la situation. En résumé, il a contribué lui-même à envenimer la relation entre lui et son fils, et a planté dans son cœur une semence d'amertume, de haine et de rébellion. Le voici à présent en train de prendre la fuite devant son propre fils. La grande leçon que toute cette histoire tragique nous enseigne, c'est que nos péchés nous retrouvent toujours et qu'ils ont souvent des répercussions dévastatrices et à long terme. Ne sous-estimons donc jamais la gravité de nos péchés, car leurs conséquences peuvent être extrêmement lourdes, comme le cas de David et d'Absalom nous le montre. À propos, le nom d'Absalom signifie « père de paix », mais le père de paix est devenu un père de haine, de révolte et de guerre. Quelle tragédie, une tragédie qu'on aurait pu éviter. À présent, revenons à notre psaume. Rappelons-nous, David l'a rédigé à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Malgré ses failles et ses imperfections, le Seigneur a appelé son serviteur David « un homme selon mon cœur ». Une des raisons pour lesquelles l'Éternel le considérait ainsi, c'est parce que David savait toujours rebondir. Certes, il connaissait des moments de découragement et d'abattement. Ces différents psaumes en témoignent généreusement. Mais David ne restait pas dans le découragement et dans l'abattement. Chaque fois, il savait se ressaisir et rebondir. C'est exactement ce qu'il a fait dans notre psaume. D'autre part, en tant qu'homme selon le cœur de Dieu, il ne cessait jamais de mettre sa confiance en son Dieu et à compter sur lui, et non pas sur sa propre force ou son savoir-faire. Chers amis, ceci est une vertu et une attitude que notre Dieu honorera toujours, car en nous confiant en lui, nous l'honorons. Il est fort possible qu'actuellement vous passiez par des moments plutôt houleux. Peut-être votre courage est-il à plat et avez-vous baissé les bras. Je vous encourage alors à imiter l'exemple du psalmiste qui, au lieu de regarder aux circonstances bien pénibles, a levé les yeux plus haut vers le Seigneur comme nous le lisons dans le psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est tout simplement magnifique, ne trouvez-vous pas? Mais revenons à notre psaume 3. Dans les premiers versets, David pose un tableau sobre et réaliste de la situation dangereuse et explosive dans laquelle il se trouve. Il ne se voile pas la face. Il est conscient de la multitude qui s'oppose actuellement à lui, le roi d'Israël. Il ne se fait pas d'illusions. Le danger est réel et le complot fomenté par son propre fils est puissant. L'issue de cette crise est incertaine et la victoire semble plutôt pencher en faveur d'Absalom. Écoutons encore une fois la plainte du roi d'Israël. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Non seulement l'ennemi était redoutable, l'opinion publique disait que David était fini, oui, que même Dieu ne pouvait plus le secourir. Monsieur, madame, est-ce que je viens de brosser le portrait de votre situation? Est-ce que vous avez également l'impression que tout est fini pour vous? Êtes-vous atteint d'une maladie incurable? Ou bien votre situation financière est-elle tellement précaire que vous vous voyez déjà complètement ruiné? Votre mariage est-il en train de s'essouffler? Si une de ces situations vous concerne, surtout ne désespérez pas. Les hommes ont peut-être déjà mis une croix sur vous. À leurs yeux, vous êtes fini, irrécupérable, au-delà de tout espoir. Mais prenez courage, car Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. En effet, écoutez bien la suite du psaume. Après avoir insisté sur la multitude qui s'était levée contre lui, et après nous avoir fait part de l'opinion publique, David change de registre. Il détourne son regard des faits qui étaient là, sous ses yeux, pour les tourner vers le monde invisible, vers son Dieu qu'il avait délivré tant de fois, qu'il avait sauvé de tant de situations impossibles. Écoutez bien sa confession qui résonne comme un cri de triomphe. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. J'aimerais d'abord insister sur les deux premiers mots de la confession de David. « Mais toi », c'est-à-dire « Mais toi, ô Éternel », autrement dit « Mais Dieu ». Nous avons ici affaire à deux mots extrêmement importants. Nous les trouvons à travers les Saintes Écritures. D'habitude, ils sont précédés de la description d'une situation négative, désespérée ou impossible, ou d'un danger quelconque. Puis vient cette confession puissante, éblouissante, « Mais Dieu ». Voici quelques exemples pour illustrer mon point. Dans le psaume 18, le même David évoque ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Il ajoute « Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé. » Ailleurs, la Bible déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » C'est magnifique, n'est-ce pas? Le patriarche Jacob lui aussi avait vécu une intervention divine. Se plaignant auprès de ses épouses du comportement fourbe de leur père, il leur a dit « Votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Je pourrais ajouter quantité d'autres passages bibliques où la même vérité est proclamée. Oui, Dieu fait toute la différence dans la vie de ceux qui croient en lui, qui mettent leur confiance en lui et qui comptent sur son intervention surnaturelle. Il y a des années, le pasteur Talmash de Huit avait dans son bureau un écriteau qui disait simplement « Mais Dieu ». Les gens qui lisaient ces deux mots étaient plutôt surpris et lui demandaient leur signification. Le pasteur de Huit avait l'habitude de répondre « Ces deux mots font toute la différence entre la défaite et la victoire, entre le découragement et l'encouragement, entre l'abattement et le relèvement, entre la tristesse et la joie. Je vous invite, chers amis auditeurs, à détourner vos regards de vos circonstances accablantes et à les tourner vers le Seigneur avec ses possibilités illimitées. Confessez à présent, à l'instar de David. » Il est vrai que j'ai des ennuis, il est vrai que j'ai des factures impayées, il est vrai que je suis malade et que je souffre, mais Dieu est capable de me guérir, mais Dieu peut me donner les finances pour payer mes factures, mais Dieu est puissant pour me sortir de mon impasse. Béni soit le Seigneur. J'espère que la semaine prochaine vous serez de nouveau à notre écoute pour entendre la suite de ce magnifique psaume. Puisse le Seigneur faire pleuvoir sur vous ses bénédictions en abondance. Bye bye.